France Musique. Les grands entretiens, France Musique, Benjamin François.
Je suis ton copain, né à Zwolle dans les années 44. Je joue l'orgue, je joue le clavecin, je suis chef d'orchestre, j'aime de travailler avec le chœur. Je suis encore prof à Leiden pour musicologie, de musique baroque. Donc j'ai fait quelque chose.
Bonjour Ton Kopman.
Bonjour.
Et merci de nous recevoir ici chez vous, dans ce salon où trône des clavecins. Il y en a combien dans votre maison, Ton Kopman ?
J'ai 9 clavecins, mais il y a, dans cette maison, il n'y a que 7. Parce que nous avons dans notre maison en France un clavecin et aussi à Vérone un clavecin.
Ton Kopman, vous nous disiez que vous étiez né aux alentours de 1944 à Zwolle et vous êtes issu d'une famille nombreuse où vous aviez 7 frères et sœurs. Vous êtes situé où dans la fratrie ? Plutôt au début, plutôt à la fin ?
Non, je suis dans le début numéro 2. J'ai eu une sœur qui est 1 an et demi de moi et après c'est moi. Oui, on se voit encore plusieurs fois par an, comme la famille de Bach, parce qu'on fait les fêtes Kopman. 2-3 fois par an, on se voit tout. Une fois ici, une fois chez les autres. C'est bien et on reste bonne famille.
Alors, vous aviez une famille qui n'était par contre, vous l'avez toujours dit, pas musicienne. Vous avez un père qui était jazzman et qui jouait de la percussion, je crois. Est-ce que ça a joué un rôle pour votre devenir musical, ce père jazzman ?
C'est comme moi, il a vraiment eu un grand plaisir d'être musicien. Et naturellement, il était né dans le début du XXe siècle. So, c'était impossible pour lui, avec la Deuxième Guerre, de gagner beaucoup avec la musique. So, il a fait percussion seulement comme amateur. Mais il était un peu jaloux de voir après moi, après la guerre, que c'était possible de faire des choses qu'il a aimé beaucoup. Et c'est drôle, j'ai une fille, la troisième fille de moi, la plus jeune, et elle fait la musique du jazz. Elle chante bien, très bien à improviser la musique de jazz. Et elle a juste fait un disque de jazz avec un band. Et elle m'a convaincu de jouer une pièce avec elle sur clavecin. So, on a fait ensemble une pièce de Gershwin. Et moi, je joue sur le clavecin avec elle. Et je dois dire, c'est pas ma musique, mais j'ai essayé de faire le maximum. Et ça fait un grand plaisir de jouer avec sa fille.
C'était facile de choisir une voie que personne d'autre que vous avait choisie avant ?
Non, j'étais enfant de chœur.
Votre père a compris, par exemple, ou votre mère, ils ont compris votre engagement dans la musique ?
Ah, pour mes parents. Non, pour mon père, beaucoup moins. Ma mère, oui. Parce qu'elle a vu directement au début que pour moi, la musique, c'est tout. Et pour mon père, il dit, ah, les gens qui devient musicien, ils sont pauvres. Mais naturellement, on a besoin de beaucoup d'aide. Et moi, dans le bon moment, j'ai eu des archanges, qu'est-ce qu'on dit, archanges ?
Les anges, les archanges, les anges, oui, oui.
Qui étaient autour de moi, qui ont dit, maintenant tu dois faire ça. Non, non, fais pas ça. Comme j'étais 12 ans, ma famille, c'était prévu de pas aller au gymnase, mais lui, c'était le chef de chœur dans ce moment-là, il a dit, non, non, un musicien a besoin de gymnase, parce qu'il doit savoir le latin. So, tu dois aller là. Et mon père a dit rien. So, moi, j'étais au gymnase. Et au gymnase, il était un prof pour l'hollandais. Et lui et sa femme ont joué le flûte à bec. Ils ont dit, samedi, tu arrives chez nous pour jouer une basse continue. Et pour moi, parce qu'on dit, c'est neuf, jouer sur un clavecin, une fois par semaine, grand plaisir, naturellement. Je veux dire, bon moment, au moment que j'étais au conservatoire, et j'ai eu la première leçon de Leonhardt et pour l'orgue de Simon Janssen. Simon Janssen, c'était la personne qui a dit, parce que tu joues le basse continu, mon fils, il peut pas être ici parce qu'il a fait chaque mois un cantate de Bach. S'il est pas libre, tu joues avec nous. Tu peux faire ça.
Et il vous a mis le pied à l'étrier, comme on dit.
Et c'était bien. Et comme ça, j'ai eu, dans le bon moment, l'aide nécessaire pour continuer, pour faire les choses que j'aime, et aussi de donner une direction. Ça, c'était bien.
Vous avez évoqué les anges et les archanges, Tone Kopman. J'en déduis donc que vous êtes catholique, ce qui n'est pas forcément une évidence ici aux Pays-Bas, où il y a beaucoup de calvinistes. Est-ce que c'est important, cette religion catholique, pour vous? Car je n'oublie pas qu'on vous a mis le pied à l'étrier aussi dans la paroisse où vous vous trouviez et où on vous a remis les clés de l'orgue en disant « Vas-y, accompagne les messes ».
Oui, ça c'est vrai. Toute la famille de moi, c'est catholique, naturellement. Il y a très peu qui vont à l'église dimanche. Moi, je peux pas dire que je suis athéiste. J'aime bien être dans l'église, mais pas dans la messe, parce que normalement, les curés parlent comme aux enfants. Et je trouve l'atmosphère de l'église très, très bien. Notamment, si on fait beaucoup de musique, comme moi, de l'église, on n'oublie pas la Bible, on n'oublie pas la théologie, parce qu'on a besoin aussi, pour comprendre un compositeur comme Bach, si on fait les cantates de Bach, on a besoin de savoir quand même qu'est-ce que ça veut dire. Et de voir aussi que catholique et luthérien, c'était pas trop loin dans le temps de Bach. Beaucoup moins loin que les calvinistes.
Tone Kopman, vous avez commencé en autodidacte, avec pas forcément des cours, mais beaucoup joué par vous-même.
Oui, à 10 ans, j'ai eu le premier leçon de piano, et à 11 ans, j'étais l'organiste de l'église. J'ai eu une clé de l'église pour étudier, et moi j'étais, si possible, chaque moment à l'église pour jouer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la pied. Pour moi, les grands compositeurs, c'était Bach, Buxtehude et Frescobaldi, Monteverdi naturellement aussi. Et c'était les compositeurs que j'ai étudiés comme autodidacte. J'ai eu un tout petit peu d'aide de leçons de piano, mais mon prof de piano a dit ah, « Le toucher est pas bon, tu joues trop fort !» Et les orgues en Hollande, les orgues anciens, c'était un orgue 19e, mécanique, lourd à jouer. Et pour les pédaliers, moi j'ai encore, j'ai les jambes pas trop longues. C'était impossible de jouer avec point et talon. Au premier moment où j'ai eu la leçon de l'orgue, mon prof a dit, mais tu dois encore apprendre le talon. Et j'ai dit, oui, naturellement, j'ai pas fait. Je trouve qu'on peut jouer beaucoup plus net, plus précis avec les points qu'avec le talon. Et dans toute l'œuvre de Bach, parce que j'ai enregistré toute l'œuvre pour l'orgue de Bach, j'ai pas trouvé un moment où on a besoin d'un talon. So, pourquoi faire seulement? Moi, j'étais trop petit pour arriver avec le talon sur le pédalier. Et comme jeune enfant, pour les pantalons, ma mère a dit « Ah, ça coûte trop d'argent, hein ?» Parce qu'après 3 mois, un pantalon, c'est fini.
Parce que ça frotte sur le banc,
oui.
Bien sûr. Sean Kopman, je n'oublie pas que vous êtes né à Zwolle, où trône dans l'église Saint-Michel un orgue Schnitger qui avait connu une première restauration par le facteur Flentrop en 1955. Est-ce que cet instrument remarquable est important pour comprendre votre passion pour l'orgue?
Oui, et c'est drôle aussi, l'orgue est de nouveau, cet orgue de Zwolle est de nouveau dans ma vie. Comme enfant de 10 ans, je pense 10 ou 9 ans, j'ai vu dans le Saint-Mathieu, il y a un chœur d'enfant. Et je demandais à mon père, est-ce que je peux faire ça? Il est allé au curé, et le curé a dit, je pense qu'on parle du même Dieu, pour moi c'est bien. Et j'ai vu cet orgue, mon Dieu, un orgue énorme, et l'organiste a joué avec toute l'orgue, et ça c'était un moment fantastique. Et à 12 ans, quelqu'un m'a dit, samedi après-midi, chaque samedi, si tu aimes, tu peux entrer, 4h, 5h, tu peux jouer cet instrument. Grand chose. C'était dommage, la personne qui a les clés de l'église, c'était M. Bach. Il n'a pas aimé l'orgue. Il était là pour guider les touristes. Et s'il n'était pas les touristes, avant 4h, c'était bien, parce qu'il a dû attendre. Mais après 4h, il n'est pas les touristes, il a arrêté l'électricité. Et il dit, Kopman, basta. Mais quand même, plusieurs fois, ça marchait bien.
Ton Kopman, vous nous parlez des instruments historiques, notamment celui de Zwolle, qui ont été importants pour vous, pour vous aiguiller vers la musique. Je me suis laissé dire que un musicien, ça se forme aussi par l'oreille. Et notamment, vous avez été, je pense, ému quand vous avez entendu pour la première fois l'Orfeo de Monteverdi dans la version de Nicolaus Harnoncourt. Quels ont été les autres enregistrements qui ont été importants pour vous dire « Ah, il y a un son, musique ancienne, ça m'intéresse ?»
C'était aussi Leonhard. Parce qu'au début, moi j'ai pensé d'aller chez un autre prof, pas Leonhard. Et quelqu'un m'a dit, l'ange de nouveau, il a dit « Non, non, naturellement tu vas chez Leonhard. » Parce que c'est le seul. Et il a joué « Uptills All Farnaby ». Et ça, j'ai trouvé très, très beau. Vraiment, il a joué avec grand plaisir. Et après, j'ai écouté Leonhard et son consort. J'ai joué aussi quelquefois avec lui, quelquefois anonyme, dans les cantates de Bach. Quelquefois, c'est sous le nom de Leonhard que je joue basse continue. Parce que au moment que Bob n'était pas libre et Leonhard a dû diriger, c'était moi. Et c'était un grand moment quand même pour jouer dans les cantates de Bach.
Ton Kopman, on est à peu près en 1965, alors que vous avez terminé vos études secondaires. Vous allez à Amsterdam pour suivre l'enseignement de Leonhard, et vous êtes son élève en clavecin, non pas en orgue.
Non, j'ai eu qu'une leçon de l'orgue, et j'ai appris beaucoup, beaucoup de cette leçon. Parce que pour moi, encore, Leonhard, c'est le grand claveciniste, naturellement, mais il y a encore un organiste plus grand. Et c'est drôle parce que si on parle de Leonhard, on parle de la manière de jouer le clavecin. Et naturellement, c'est vrai. Et aussi, il a fait beaucoup pour la reconstruction d'un clavecin à l'ancien. Parce que le clavecin, au moment qu'il a étudié, c'était triste. Au moment que j'ai commencé aussi, c'était assez triste. Mais heureusement, ça a changé.
Parce que c'était un instrument qu'on considérait comme quelque chose d'un peu vieux, vieillot.
Et aussi, on doit sauver l'instrument, parce que l'instrument est trop faible, soit on doit faire un instrument comme un piano, avec tout à métal. Et Leonard a commencé, il a rencontré Skowronek, le grand facteur pour la flûte à bec à ce moment-là, et un peu pour le clavecin. Et le clavecin de lui, qui est encore à Amsterdam, chez Bob van Aspren, très beau, bel instrument, vraiment très bel. Un instrument très dynamique. J'ai aimé beaucoup de jouer cet instrument. Quand j'ai eu la leçon à la maison de Leonard, normalement la leçon était sur un clavecin à la française. Mais j'ai demandé chaque fois, monsieur Leonard, je peux jouer sur le Skowronek? Et il a dit, oh, pourquoi pas? Mais il a étudié aussi sans ouvrir tout le couvercle, parce que c'est trop fort. Et pour ça, il aimait beaucoup de jouer le clavicor. Et moi, j'aimais d'ouvrir tout, comme sur la peinture hollandaise, de mettre le couvercle contre le mur, parce que ça donne encore un meilleur mélange de sonorités. Et j'ai rencontré, pendant la leçon, ensemble avec Leonard, Willem Kroesbergen. Il était étudiant. Et il a fait un petit clavecin pour lui, pour jouer. Il a joué flûte à bec. Et son compagnon a joué le clavecin. Et j'ai trouvé, ah, c'est un bel instrument. Et il dit, oui, je suis en train de faire un instrument plus grand. Mais j'aime les instruments et je trouve que c'est une jolie sonorité avec une dynamique. Vraiment, on peut écouter le crescendo, décrescendo. Et surtout, si on joue pas bien sur l'instrument, l'instrument aime pas toi.
Passer une leçon avec Gustav Leonhardt. Beaucoup d'élèves ont dit qu'il ne disait quasiment rien en définitive. Est-ce que vous confirmez?
Oui, il ne dit pas beaucoup. Je dois dire...
C'était pas un bavard.
Non, on ne peut pas voir parce que c'est radio, mais vous pouvez voir, peut-être expliquer. Il n'a pas eu une lunette comme moi. Il a eu un petit crayon et pendant j'ai joué, il était comme ça. Les yeux fermés. Il a écouté quelquefois les oreilles bougent un tout petit peu. Il a tourné les pages, so il connaît par cœur. Après, il dit quelques mots. Il dit avant, bien fait. Après, il a pris son crayon, il a mis quelques annotations pour la doigté, quelquefois pour l'articulation et quelquefois pour le tremblement. Il a expliqué une minute et demie maximum. Il a dit OK. Au revoir, à la prochaine. Et j'essayais de parler avec lui, de demander des questions. Il dit oui, non, très très peu. So,
monocorde.
Yeah, monocorde, on peut dire. Et la même chose, si j'ai dit, monsieur Léon, je m'excuse beaucoup, mais j'ai pas eu plus de temps parce que j'ai joué cette semaine basse continue dans le Saint-Jean et je sais pas, c'est pas suffisant à la maison. Aucune fois, il était furieux. Il a compris. Et je pense pour tous les étudiants, c'était comme ça. Je me souviens, la première fois, tous les élèves, c'est-à-dire quatre élèves, étaient ensemble chez lui, dans sa maison encore, dans le Newmarkt, à Amsterdam. C'est une très belle maison, 17e, début 17e. Et tout le monde a joué. Il a joué un peu sur les instruments parce qu'il a eu beaucoup de clavecins. Et dans ce moment, on a bu du vin, naturellement. Mais un petit verre, et pas plus. Il a fermé la porte.
calviniste.
Yeah. Et j'ai pensé, peut-être après, il boit de bouteille lui-même le reste. Après, ça c'était une idée de... Mais c'est pas sûr.
Ton Kopman, d'où vous est venue la passion pour la musicologie, passion dévorante, puisque vous avez réussi à constituer une magnifique bibliothèque de plus de 40 000 volumes qui ne se trouve plus actuellement en Hollande, mais qui est à Gand, en Belgique. Comment avez-vous eu cette passion pour les traités et tous ces magnifiques volumes du XVIIe et XVIIIe siècle?
Je pense qu'il y a deux personnes importantes, c'est le prof pour musicologie, Bernard Kempers, et Gustav Leonhardt. Pour Léonard, c'était clair, on ne peut pas jouer la musique baroque comme on joue maintenant. On doit penser, savoir. Moi, je dois dire chapeau, parce qu'il a vraiment cherché bien lui-même. Et ça, c'était pour moi un exemple. Peut-être aussi, au moment où j'ai eu la première leçon de musicologie, tous les livres étaient là. Et moi, j'ai aimé les livres anciens depuis que j'étais 13 ans, peut-être avant. Mais le premier livre ancien que j'ai acheté, au moment que j'ai 13 ans. Et... pour moi, un livre ancien, l'odeur, le papier, c'est une grande chose. Et au début, c'était pas cher, et de plus en plus c'était cher, et dans la fin, c'est encore plus cher, mais ok, j'achète aussi les livres pas ordinaires. Et lire, c'était pour moi quelque chose que j'ai fait chaque jour, deux, trois heures. Quelquefois, j'ai pas étudié le clavecin ou l'orgue, parce que c'était dans un livre qu'aimais beaucoup et qui était intéressant et j'ai continué. Et, moi, j'ai lu aussi pour le violon, pour le bois, pour le flûte à bec, pour le violoncelle, le viol de gambe. Et, dans ce cas, on commence à être de plus en plus intéressé et ça fait un grand plaisir. Encore, je lis beaucoup. Et maintenant, la collection de moi, 45, 1000 livres.
Ben, plus de 5000, encore plus que 40 000.
Il y a 45.
Elle a encore augmenté.
Il y a encore un autre 7000 peut-être à la maison. Et ça continue encore parce que...
La passion ne s'arrête pas
pour
autant.
Et ça donne aussi un alibi à ma femme de dire « Ah oui, ça coûte quand même quelque chose, mais j'ai besoin ».
Kopman, dont nous avons partagé aujourd'hui les premières émotions musicales, la passion pour la musicologie et les livres anciens, ou les leçons de clavecin avec Gustav Leonhardt, vous le retrouverez demain dans notre deuxième épisode. Il y sera question de la création de ses premiers ensembles, de projets en commun avec Philippe Hervec et René Jacobs, ou la rencontre de son épouse Tini Matto. Il me reste à remercier Romain Luquiens, Jean-Louis Deloncle, Flora Stanadel et Gilles Blanchard à la réalisation. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour le deuxième épisode, à moins que vous ne préfériez le podcast et la réécoute à l'heure qui vous chante.
À réécouter sur francemusique.fr.